franceinter.fr.
On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le chien, histoire d'un objet de compagnie.
J'aime mieux vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'ai été surpris. J'ai été acheté une cul de bête. Je veux pas discuter avec toi. Enfin quoi, un chien qui parle. Est-ce que j'aboie, moi? Quoique.
Peut-on attribuer une âme, une pensée, une personnalité juridique au chien? Les théologiens, les philosophes, les juristes l'ont logé généralement assez bas dans une position constamment subordonnée. Pourtant, dès l'Antiquité, Lucrèce se félicitait qu'il se tienne aux côtés de l'homme le sommeil léger et le cœur fidèle. Et les exemples de dévouement du chien sont tellement nombreux que le sens commun le tient évidemment pour quelqu'un. Mais qui ? En France, le Code civil de 1804 le considérait comme une table qu'on peut saisir. Mais le chien n'est pas un bien meuble. Aujourd'hui, dans les procédures de divorce, on est tenté, depuis les années 1970, de le traiter un peu comme un enfant dont on se dispute la garde. Mais le chien n'est pas un enfant, un début de personne, peut-être, pourtant, point d'interrogation. Victoria Vanneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une historienne du droit, vous avez beaucoup travaillé et sur l'étude des lois concernant les animaux et sur les cas de jurisprudence. On va vous apporter... Ça va être comme un appendice à votre livre, Le chien, histoire d'un objet de compagnie aux éditions Autrement. Beaucoup de sons issus notamment de notre époque. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Raymond Devos, qu'on entendait.
Je l'entendais toute petite, mais je l'ai quand même connu.
Le chien est allongé. Non, c'est l'homme qui est allongé, je mélange. Le chien est assis sur le canapé.
Eh oui.
Et l'homme demande est-ce qu'on peut changer de chaîne ? Vous dites d'ailleurs qu'il y a constamment, dans le sens commun, une sorte d'affectivité, une expérience de l'importance de la compagnie du chien, que ça dépasse tous les savoirs. Votre livre s'ouvre par une histoire extraordinaire qui a franchi les temps.
Oui, celle de la fidélité de Verbeau envers son maître, Montdidier.
Alors Verbeau, nous sommes en 1371.
1371, on est en plein Moyen-Âge. Montdidier et Macaire sont deux soldats qui, évidemment, se disputent les faveurs du roi. Macaire est très jaloux de la position de favori de Montdidier et il décide de le supprimer tout simplement.
C'est une légende que vous nous racontez.
Alors
là.
C'est une belle légende, oui. Mais quand même, elle mérite d'être écoutée puisqu'elle se déroule en plus dans la belle ville de Montargis et les habitants de Montargis sont très fiers de cette légende.
Oui, mais enfin, dans la forêt de Bondy, je ne sais pas si les habitants de Bondy sont très fiers du souvenir de leur forêt.
Alors ça, c'est le problème parce qu'évidemment, Montdidier est chargé de se rendre de près de Bondy et il doit traverser cette fameuse forêt qui déjà à l'époque était réputée pour sa dangerosité. Il est accompagné de son chien Verbeau et Macaire profite de cette occasion pour lui ôter la vie. Aidé de deux complices, il l'assaille, attache le chien parce qu'évidemment Verbeau essaie de défendre son maître et tue Montdidier. Ils finissent par l'enterrer et le chien est toujours attaché à l'arbre. Et le chien pleure, essaie de se détacher, il finit par se délivrer de ses liens et il cherche absolument à retrouver son maître sous la terre, mais évidemment son maître est décédé. Donc il se rend à la ville la plus proche, il aboie, il essaie évidemment de captiver l'attention des gens qui ne comprennent pas pourquoi ce chien aboie, qui leur tire un peu les vêtements. Et puis un jour il décide de le suivre, d'autant qu'on recherche partout Montdidier, on ne sait pas où est passé Montdidier. Et les habitants suivent ce chien et Verbeau et donc découvrent le corps de Montdidier enterré.
Et le travail de Verbeau, le chien n'est pas fini parce qu'ensuite il se rend à la cour. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il attaque
Macaire.
Le méchant Macaire.
Exactement.
Et le roi
Il est un peu surpris. Il se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, à l'époque, on aimait beaucoup le duel judiciaire, qui était une occasion, justement, de tirer la vérité, le vrai du faux.
Le roi considère comme une sorte de plainte juridique, les aboiements désespérés poussés par Verbeau et il convoque une ordalie.
Une ordalie, voilà, exactement. Un duel judiciaire.
De par Charles Ve, souverain magistrat, jugement de Dieu est requis entre un chien lévrier blanc, ayant appartenu à feu Aubry de Montdidier, plaignant, et messire Macaire, chevalier, prévenu d'avoir assassiné son maître en la forêt de Bondy. Le combat se déroulera dans l'île Notre-Dame, dimanche prochain, saint jour de la fête du Christ. Le sieur Macaire sera armé non d'une épée, mais d'un solide gourdin. Quant au chien, il aura ses armes naturelles. Que Dieu notre Père juge entre eux et donne victoire à la vérité.
Les voici.
Ce chien, croyez-moi, n'est pas un chien ordinaire.
Mais regardez-le. Non seulement il combat comme un vaillant soldat, mais encore comme le plus savant des guerriers.
Le chien semblait infatigable. Quand il jugea que son adversaire s'était suffisamment usé, il se lança à sa gorge.
Au secours! Au secours! Par pitié, éloignez de moi cette bête! Je le confesse, j'ai assassiné Aubry de Montdidier.
C'est une adaptation pour la radio en 1957 du Chien de Montargis par l'excellent écrivain Loïs Masson, qui témoigne, cette histoire perdurant, je le disais, d'une certaine expérience affective, bon, qui n'est pas la même dans tous les groupes sociaux.
Non, 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 ça, évidemment, ça concerne une certaine forme d'aristocratie, la fidélité du chien, puisque pour les gens un peu plus pauvres, on déplore évidemment cette masse canine qui erre un peu partout, qui est plus dangereuse d'ailleurs.
Et puis pour les paysans, ben, le chien est
un outil de travail.
Mais on voit donc des affections quotidiennes qui s'inscrivent comme ça dans les replis de ce que vous appelez l'orthodoxie en matière de chien. Théologique, philosophique et scientifique et juridique. L'orthodoxie théologique, bah, y a quand même des lévriers qui sont des saints.
Alors, il y a Saint-Guinefort, effectivement. Je ne sais pas si je vais raconter la légende, c'est un petit peu longue, mais elle est connue.
Oui.
Mais effectivement, mais ceci dit, dans la religion, généralement, le chien a plutôt mauvaise réputation. C'est celui qui retourne à son vomi. C'est celui qu'on a du mal à classer parce qu'il est à la fois carnivore et herbivore. Donc, vis-à-vis des autres animaux, le chien a vraiment très, très mauvaise presse, on va dire.
Il y a Saint-Roch.
Alors, il y a Saint-Roch, c'est évidemment le jour de la Saint des chiens où on les bénit, c'est l'occasion de les bénir, effectivement. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont plutôt mal perçus. Donc, il y a une certaine vision anthropocentrique, évidemment, de la société. Et il est hors de question, évidemment, de considérer le chien à l'égal de l'homme.
Dans la religion chrétienne, c'est souvent marginal, la position très favorable au chien.
Oui.
L'église Sainte Rita que vous citez, église catholique gallicane, dissidente, est en cours de fermeture et menacée de dissolution dans le 15e arrondissement. On y pratiquait des bénédictions de chiens. Le même anthropocentrisme, dites-vous, se retrouve dans les catégories scientifiques, surtout telles qu'elles sont établies à partir du XVIIe siècle.
Ah bien sûr, et puis alors c'est Descartes qui est quand même le fer de lance de cette pensée, avec le discours de la méthode, qui estime que l'animal n'a pas de sensibilité, n'a aucune âme, n'a pas de sensibilité, pas de raison. Mais le pire finalement dans cette théorie, c'est plutôt Malebranche, le disciple, qui fait dériver cette théorie en prenant, alors je ne sais pas pourquoi, mais toujours le chien, qu'il estime être vraiment un animal, vraiment un sous-animal, et que d'ailleurs il suffit de lui donner un coup de pied et ses cris ressemblent au simple cliquetis. Donc comme il dit, pareil à des horloges, donc il n'y a pas de raison de considérer autrement l'animal et surtout le chien comme autre chose qu'une simple machine.
L'animal qui ne pense pas est néanmoins utile pour la fabrication de la pensée de l'homme.
Ah, effectivement, puisqu'on a besoin de lui pour pratiquer malheureusement les dissections, la vivisection. Il est pratique, il est commode, puisqu'il est proche de l'homme. Et cette proximité de l'homme fait qu'on va évidemment découvrir un petit peu comment l'homme fonctionne en le disséquant, lui, le chien.
Alors, orthodoxie juridique maintenant, qui va s'organiser à la perfection, comme toujours, grâce à Napoléon en 1804, avec le Code civil. Qui dit quoi du chien ?
Alors, qui dit tout
des animaux.
Alors, qui dit surtout des animaux en général, que ce sont des biens meubles, tout simplement, hein, pour essayer de faire court. Ce sont des biens meubles, des meubles qui peuvent se déplacer par eux-mêmes, ou évidemment qu'on peut déplacer. Mais il se trouve que pendant très longtemps, on considérait les animaux comme des choses, on va dire, dans la catégorie animée.
Mais alors, l'animal s'inscrit maintenant dans le grand registre, avec des R majuscules, du droit de propriété.
Eh bien, c'est parce que le code civil est tout simplement le recueil, on va dire, du droit de propriété. Et le fait que, justement, l'animal entre dans cette catégorie du droit de propriété, donnait un droit maximum, un droit de vie presque et de mort, de l'homme sur le chien.
Alors, si vous ne payez pas vos impôts, on peut taxer... Et saisir le chien, comme on saisit une table.
Comme on saisit une table, puisque c'était un bien meuble.
Mais on peut aussi taxer.
On l'a taxé en 1855, mais ça sera plus tardif.
Oui, mais donc pendant un moment, le chien est l'objet d'un impôt. Il signe d'un comportement somptuaire, évidemment, le chien utilitaire.
Alors le chien utilitaire,
le chien de trait est moins taxé.
Voilà, effectivement, mais ça sera la taxe au niveau fiscal, ce sera véritablement en 1855, contrairement à l'Angleterre qui, elle, commençait déjà à la prévoir.
Mais ça a donné lieu à toutes sortes d'exercices de pensée pour nos littérateurs. Ici, c'est une pièce de Gabriel Cousin qui a été adaptée à la télévision, qui dit impôt. Dit fraude. Qui dit fraude, dit percepteur intelligent.
Avez-vous apporté les papiers demandés dans la lettre ?
Oui, monsieur, oui.
Votre père s'occupait bien d'un chenil.
Oui, monsieur, oui.
Dans ce chenil, vous y alliez souvent ? Vous aimiez...
Oh oui, monsieur, j'aime les chiens. J'y passais tous mes jeudis, on se comprenait, on jouait.
Très, très, très bien. Dites-moi, mademoiselle, vous savez aboyer ?
Aboyer ? Je sais pas, je...
Monsieur le directeur, nous avons trouvé... Mademoiselle n'est pas mineure et elle sait aboyer.
Approchez-vous, mademoiselle. Voici ce dont il s'agit. L'administration des impôts, c'est-à-dire moi, j'ai constaté que très peu de propriétaires de chiens paient la taxe. Si ces chiens étaient décelés, les impôts entreraient. Il suffirait d'aboyer dans les rues. Les chiens répondraient, forcément, n'est-ce pas? Les agents de perception prendraient alors les maîtres en flagrant délit. Et non seulement les impôts rentreraient, mais il y aurait en plus une amende. Seulement... Il fallait trouver quelqu'un qui sache aboyer. Et vous, vous savez aboyer. Voulez-vous, mademoiselle, entrer dans les services de perception des impôts ?
Et ce système, mademoiselle, a duré jusque...
En 1972.
Alors, on parle de fraude fiscale, là, avec le sourire. Vous, vous parlez, peut-être avec trop de gravité dans la voix, d'une hécatombe fiscale provoquée sur les chiens par ce système ?
Alors, tout simplement parce que les gens cherchaient à s'en débarrasser. Je crois que celui qui a le mieux décrit cette scène-là, c'est Maupassant dans Pierrot, où la propriétaire d'un chien refuse de payer les 8 francs de taxes. Et alors, elle essaie de se débarrasser du chien, mais personne n'en veut aux alentours. Donc, on décide de lui faire piquer le mât, comme on disait à l'époque. C'était de le jeter dans un trou. Et puis, bon, après tout, advienne que pourra. Soit il s'en sort, soit il meurt avec ses autres congénères dans ce trou.
Mais vous dites qu'on a mis au point des procédés d'abattage.
Alors effectivement,
un peu particulier.
Alors, puisque les gens se débarrassaient de leurs chiens pour pas payer la taxe, les chiens erraient, il a fallu effectivement les attraper. Et alors, il y a tout un tas de systèmes qui ont été développés. Alors, on se servait des systèmes de l'abattoir classique, coup de massue, coup de hache, strangulation, mais visiblement, c'était assez complexe. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est assez violent. Mais progressivement, on s'est mis à prévoir tout un tas de systèmes au moyen de boîtes à gaz pour exterminer les chiens, puisque ils erraient beaucoup trop dans les quartiers.
Mais
certains, d'ailleurs, les jetaient dans la Seine, dans la Marne.
Mais quand vous parlez de gaz, est-ce que vous ne faites pas de l'anthropocentrisme à votre tour, voulant absolument appliquer les mêmes catégories répressives aux animaux que celles... On a appliqué, hélas, aux hommes.
Aux hommes, tout simplement, il y avait une grande quantité de chiens et on s'est rendu compte que pour éviter la souffrance, parce que d'étrangler les chiens, c'était quand même assez long, et ils les étranglaient par paquet de 5, c'était quand même assez horrible. Les gens se plaignaient des cris aux alentours et donc ils ont inventé ces boîtes pour les gazer, ce qui était quand même, on va dire, plus doux.
En même temps, donc, on sent que la sensibilité, rien qu'à vous entendre, n'a cessé de demeurer, elle va gagner du terrain dans l'époque que nous allons maintenant aborder. Elle va commencer cette époque dans la première moitié, au milieu du 19e siècle. Et l'ouverture, c'est Jean Ferrat.
Berger des landes familières, tu vivais digne et solitaire, animal doué de raison. J'écris ce jour anniversaire où tu reposes sous la terre, à deux pas de notre maison. Oural, Oural, Ouralou, Oural, Ouralou, au paradis des chiens peut-être, ton long museau à la fenêtre, tu nous accueilleras bientôt au triple galop caracol. Je vois tes pattes qui s'envolent, chevauchant l'herbe et les nuées. Le vent siffle dans ton pelage. Vole, vole, mon loup sauvage, comme au temps des vertes années. Oural, Oural, Ouralou, Oural, Ouralou.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le chien, histoire d'un objet de compagnie, c'est un livre de Victoria Vano, qui est notre invitée, qui vient d'être publié aux éditions Outremont. Dans la première moitié du 19e siècle, le public s'émeut au théâtre, Pixérécourt adapte le chien de Montargis, la légende dont nous parlions tout à l'heure, et ça a beaucoup de succès dans les salles du boulevard du crime. Vous notez d'ailleurs beaucoup de signes de cette sensibilité nouvelle. Pour faire plaisir au révolutionnaire Jean Ferrat, on pourrait rappeler l'histoire de Médor sur les barricades.
Effectivement, Médor accompagne... Alors, c'est ce qu'on pense. Hein. On pense que Médor accompagne son maître au moment de la Révolution.
De 1830.
Et au plus fort de la mêlée, visiblement, le maître est tué et enterré avec les autres corps. Et Médor suit son maître jusque dans la tombe. Et il restera couché au pied de cette tombe-là, à gratter de temps en temps, à retirer des petits bouts de tissu. Et les gens seront émus et touchés par le comportement de ce chien. Alors, c'est les gens d'ailleurs qui vont l'appeler Médor, parce que on ne sait pas du tout comment il s'appelle. On lui donnera à manger, il refusera de manger. D'ailleurs, ce chien, il déterrera sans arrêt à chaque fois des petits bouts, puis il enterrera les petits bouts de nourriture, pensant que son maître en a plus besoin que lui.
Une gravure que vous reproduisez rappelle cette histoire, à moins que ce ne soit une légende, du côté catholique, dans les conférences de carême
de la Cordère,
de Notre-Dame de Paris, la Cordère.
Alors évidemment, il montre l'importance du chien, mais lui c'est plus l'aspect solitaire finalement des hommes qui fait que finalement il se rend compte qu'un homme seul, accompagné de son chien, bah, c'est mieux que rien. Et il se félicite justement de cette amitié entre l'homme et l'animal, puisque dans les moments les plus durs, même jusque dans la mort finalement, eh bien, il y a le chien qui est là, qui attend. Et qui est triste aussi au même titre que ceux qui restent.
La Cordère a été députée de la Seconde République. Dans l'Assemblée législative de la Seconde République finissante, nous sommes maintenant en 1850, le général de Gramont, député de la Loire, va porter un texte qui restera et qui est alimenté par cette nouvelle sensibilité.
Dans ce Paris de juillet 1850 où le cheval est roi, une voiture noire attelée de deux chevaux traverse la place de la Concorde et se dirige vers le palais Bourbon. Dans la voiture, le général comte de Gramont et son ami le vicomte de Valmer devisent du projet de défense des animaux que le général de Gramont et quelques-uns de ses amis ont entrepris de faire triompher.
Je suis un peu ému. Comment vont-ils prendre ça?
Oh, moi, je ne suis pas inquiet. Vous savez, votre autorité, votre prestige...
Ah, tout de même. Enfin, je vais leur dire en substance ceci. Vous représentez une bande de brutes qui parlent toujours au nom de l'humanité dont elles semblent se soucier fort peu. Réussirais-je à les convaincre sans les blesser? Tout est là.
Ces manifestations sont absolument déplacées. Je demande à monsieur le comte de Gramont de bien vouloir poursuivre.
Et je suis persuadé, messieurs, que le vote qui va clôturer ce débat ne peut que grandir cette assemblée qui, dans un sentiment unanime de pitié et de devoir envers le faible, aura voulu que la France fût une fois encore à l'avant-garde de la fraternité et de la charité des âmes.
Le 2 juillet 1850, la loi qui porte désormais le nom de loi Gramont était votée après ce débat tumultueux.
Débat tumultueux qui est reconstitué à sa façon par Georges Delamare à la radio en 1950. À cette époque, il y avait déjà, avant la Grain Dubourg et Elisabeth de Fontenay, des émissions consacrées aux animaux à la radio. Quand le général de Gramont dit que la France doit être pilote, vous expliquez, Victoria Vanneau, qu'elle est derrière.
Elle est derrière,
la
oui.
Grande-Bretagne.
Derrière la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait déjà commencé dès les années 20 à légiférer sur le sort des animaux. C'est le Martin's Act, c'est la création d'une SPA également. Donc nous, on est vraiment loin derrière.
Alors, l'article a été raboté par les méchants députés qui jappent et aboient et amendent aussi. La loi tient en un article. Seront punis d'une amende et pourront l'être d'un à cinq jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Publiquement.
Oui. Publiquement, ça c'est une condition très importante. C'est-à-dire qu'avec cette loi, on n'est pas venu protéger finalement l'animal, on est venu protéger la sensibilité des gens qui voyaient les maîtres maltraiter les animaux dans la rue. Puisque si on suit, on reprend un peu dans le détail les débats, il était hors de question que le législateur intervienne dans la vie privée des gens. Ils n'intervenaient pas pour régler le cas des violences entre les maris et les femmes, ils n'allaient certainement pas intervenir pour régler le sort du maître et de son chien. Donc.
Alors l'application de la loi, elle se fait assez modérément et rarement. Prenons un cas intéressant que vous avez repéré dans la jurisprudence. Nous sommes aux alentours de la Sorbonne. À la Sorbonne, il y a un laboratoire de vivisection et une voisine qui s'appelle Madame Joliot et qui, en 1878, est très mécontente.
Elle est très mécontente. Elle est propriétaire d'un hôtel et tous les soirs, elle entend des hurlements de chiens et évidemment, les clients se plaignent. Donc, elle porte plainte pour trouble à la tranquillité publique. On lui apaise un petit peu son mécontentement en lui faisant part que peut-être elle pourrait s'adresser directement, en tout cas à l'université, pour que les bruits cessent. Qu'à cela ne tienne, l'université décide effectivement de faire cesser les bruits. Alors les chiens sont enfermés dans la cave et les chiens de garde sont tout simplement rendus aphones. Alors, ils ne donnent pas les détails dans lesquels l'intervention a été pratiquée, mais enfin bon. Visiblement, les bruits se poursuivent et l'affaire évidemment est portée devant la justice.
Et elle va avoir gain de cause, Madame Joliot, mais pas en application de la loi Gramont.
Oh, mais bien sûr que
mauvais
non.
Traitement pour animaux domestiques.
Non, puisque c'est vraiment le trouble à l'ordre public. C'est comme la loi Gramont protège la sensibilité des gens, et bien là, on vient tout simplement protéger la tranquillité du voisinage.
La guerre a déjà eu lieu, je parle de celle de 1870, avec le siège de Paris, qui a alimenté des réflexions sur la cause animale ou le sort des animaux.
Alors, d'une drôle de manière, hein, puisqu'on s'est demandé justement si on pouvait les manger, puisque à la suite de la guerre et de la Commune, on s'est retrouvé un petit peu en pénurie. Et la Commune a autorisé l'achat et finalement la consommation de chiens.
Sauf quand les bourgeois, monsieur et madame X, mangent leurs chiens bijoux.
Leurs petits bijoux, et... oui. Bah, ça, c'est une petite anecdote qui, comme ça, qui circulait dans la presse. Et alors, Jules Renard le reprendra, bien entendu, puis par la suite encore. Eh bien, oui, on décrit ce couple qui mange le petit chien, qui n'ont plus rien à manger. Ils mangent le petit bijou, le petit bichon bijou.
Et madame,
à la fin du repas, elle se rend compte de tous ses os et elle dit avec un grand soupir qu'il aurait adoré ses os.
L'expérience de la Première Guerre sera beaucoup plus longue.
1914, 1918, l'héroïsme des gens, l'héroïsme des bêtes, l'héroïsme des chiens.
Allô ? Allô ? Allô, 99 ? Allô, 99 ? Allô ? Allô, c'est coupé, mon lieutenant, il n'y a plus de jus.
C'est bon, prêt par le chien.
Là, Barreau, sois sage, là.
Ah, voici le message. Serre bien le collier. Ça y est ?
Allez, hop, viens.
Le brave Baroud, ce soir-là, accomplit sa mission qui était d'établir la liaison entre le poste de commandement d'une compagnie isolée en ligne depuis la veille et réduite à 42 hommes et le PC du colonel. Pris dans un éclatement de 77, il fut projeté en l'air, resta 10 secondes étourdi, se releva et atteignit son but en 13 minutes dans une zone de feu qu'aucun homme n'aurait pu franchir. Les 42 hommes du 122e, dégagés une heure plus tard, auront dû leur vie à un chien.
Georges Delamarre, toujours à la radio. À côté de votre livre, Le chien, histoire d'un objet de compagnie, je peux recommander un roman, Jean-Christophe Ruffin. Ça vient de paraître, Le collier rouge. 14 juillet 1919, un soldat décoré de la Légion d'honneur se met à apostropher sur tous les tons les officiels à la tribune. Et il transmet sa Légion d'honneur à son chien en disant... C'est lui le vrai héros. Ce qu'il y a derrière ces mots, c'est une toute autre histoire. Lisez le roman, vous ne l'avez pas encore fait. Victoria Vado. Les animaux décorés, il y a un musée au Mont-Valérien qui leur est consacré.
Et Paul Morand, d'ailleurs, dans son journal d'un ambassadeur, raconte cette scène, justement, où on voit le chien décoré de cette croix.
La Deuxième Guerre mondiale, où le chien va servir de kamikaze, va aussi accélérer les réflexions. C'est une des explications du saut législatif, on va finir là-dessus, qui se déroule à partir de 1959 et des années 60 en France. À la suite de ce saut, il a fait un bond, le chien, il est devenu un sujet ?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Il est resté tout simplement un objet sensible. On le protège des mauvais traitements, des sévices. On reconnaît sa sensibilité en 1976, mais il reste toujours un objet aux yeux du droit.
Oui, mais c'est que le mot animal domestique s'est tellement élargi qu'on ne peut pas consentir à tous les animaux domestiques les caractères que vous souhaiteriez.
Ben exactement, il faut distinguer à l'intérieur des animaux domestiques l'animal de compagnie et l'animal tout simplement utile économiquement à l'homme. Donc,
vous parlez beaucoup des affaires de divorce, on se dispute le droit de garde, le droit de visite, mais enfin le chien, on ne peut pas non plus en faire le substitut d'un enfant.
Non, mais pour beaucoup de gens, c'est un moyen d'exister, la seule chose à qui ils peuvent parler de toute la journée. Et ça, la justice y veille en reconnaissant, par exemple, un préjudice moral quand l'animal disparaît dans des conditions atroces. Et puis, effectivement, elle réfléchit un peu plus attentivement sur cette garde qui envahit les tribunaux ces derniers temps.
Si on vous suivait, le chien pourrait hériter, du Negresco hérite des animaux domestiques grâce à la bénévolence de la vieille propriétaire, Anis.
Exactement. Exactement. Là, en France, non, mais on peut toujours prévoir que dans un testament, des personnes peuvent hériter et gérer les biens pour le chien.
Alors, beaucoup de questions à l'issue de votre livre. J'en formule une. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec elle. Qu'est-ce qui nous retiendra de traiter les hommes comme des bêtes quand on sera convaincu qu'il faut traiter les bêtes comme des hommes. Vaste sujet, votre livre aux éditions Autrement. Merci à vous.
Merci à vous.
Victoria Vano. L'émission a été réalisée avec Jacques Sigal à la réalisation, Fabrice Desmaz à la technique et à l'initiation et pour la préparation du sujet, Franck Olivard.
Youhou, ratata.